Bonjour à vous tous, bienvenue aussi à ceux qui nous visitent ce matin. Que ce soit une rencontre toute particulière avec le Seigneur. Eh bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 25. Les deux livres des Chroniques retracent l'histoire du peuple d'Israël, des rois d'Israël, mais en parlant particulièrement des rois du petit royaume de Juda. Et dans le deuxième livre des Chroniques, nous avons une série, la liste des rois qui ont dirigé ce petit pays de Juda depuis ce qu'on appelle le schisme, c'est-à-dire qu'après la mort du roi Salomon, il y a eu une séparation, une division dans le pays d'Israël. Il y a eu le royaume du Nord qui s'est appelé Israël et le royaume du Sud qui n'avait que 2 tribus sur 12 qui s'est appelé le pays de Juda. Et dans ces chapitres, du chapitre 10 au deuxième livre des Chroniques jusqu'au chapitre 36, je crois, nous avons une succession de ces rois de Juda. Et dans la liste de ces rois qui ont succédé donc à Salomon, jusqu'à la déportation en 586 avant Jésus-Christ, le 9e roi a attiré mon attention. Et j'aimerais vous partager quelques réflexions à son sujet. Alors vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 25. Tout un chapitre, mais on pourrait dire aussi rien qu'un chapitre, parce qu'un chapitre dans la Bible, c'est pas grand-chose, est consacré à ce roi, au nom assez, je ne sais pas comment dire, rare, Amatsia. J'ai regardé pour voir dans ma concordance si ce prénom ou ce nom d'Amatsia se retrouvait par ailleurs. Eh bien, il ne se retrouve qu'une seule fois, dans le livre du petit prophète Amos, et c'est un faux prophète du nom de Amatsia qui vient dire à Amos, le prophète de Dieu, de s'en aller, de quitter le pays parce que, dit-il, les gens ne supportent pas ce qu'il dit. Alors si vous ne supportez pas ce qui est dit ici de la part du Seigneur, vous pouvez librement quitter, mais j'espère qu'il n'y a pas de faux prophète qui vous encouragera dans ce sens. Alors le roi Amatsia, ce n'est pas un roi important. Il n'a pas laissé de grandes traces dans la Bible. Mais ce qui est dit à son sujet peut s'appliquer à nous et nous servir en tout cas d'avertissement dans notre relation avec Dieu. Le roi Amatsia succède à son père, comme cela se faisait souvent dans les royautés. Son père, c'était le roi Joas, qui a bien commencé, mais qui a mal fini. Plusieurs de ces rois de Juda commencent bien et finissent mal. Toujours sous le regard de Dieu, appréciation est par rapport à ce que Dieu a dit de ses rois. Joas est assez particulier parce qu'il a été caché en tant que bébé, en tant que petit enfant pendant 6 ans, parce que sa grand-mère, Athalie, non pas Nathalie, mais Athalie, et Racine a fait une pièce dramatique sur Athalie. Athalie qui régnait a fait tuer tous ses, en fait, les membres de sa famille, tous ceux qui pouvaient prétendre à être les successeurs sur le trône à Jérusalem. Il a donc été caché, Joas, le petit Joas, pendant 6 ans, par son oncle qui était le sacrificateur. Son nom, c'était Jehoiada. Et il était marié avec une fille de princière de la famille du roi. Donc on pourrait dire que c'est la tante et l'oncle de Joas qui le cache pendant 6 ans. Et à l'âge de 7 ans, il devient lui-même le roi à Jérusalem après l'exécution par le peuple de la sanguinaire Athalie. Et tant que le sacrificateur Yehoiada était en vie, et d'une certaine façon Dieu lui a fait la grâce de vivre jusqu'à l'âge de 130 ans, Joas a été fidèle au Seigneur. Et lorsque ce sacrificateur est mort, il s'est tourné vers ses conseillers qui lui ont conseillé ou mal conseillé d'adopter les divinités étrangères et d'abandonner le Seigneur, ce qu'il a fait. Il est mort tristement, mais je ne m'attarde pas sur lui puisque c'est Amatsia qui nous intéresse, le fils de Joas. Il monte sur le trône à l'âge de 25 ans, un âge où on est déjà mûr. Et ses débuts sont prometteurs. Mais le chroniste, c'est comme cela qu'on appelle l'auteur du livre des Chroniques, est lucide. Il écrit, et je lis avec vous, les deux premiers versets du chapitre 25 du deuxième livre des Chroniques. Amatsia devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yehodan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais d'un cœur qui n'était pas sans partage. Cette expression « il fit ce qui est droit » est bienfaisante, est encourageante, parce que souvent il est écrit « il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Là, « il fit ce qui est bien », c'est donc un bon point, c'est donc un encouragement. Mais d'un cœur qui n'était pas sans partage. Le deuxième livre des rois nous apprend sur ce roi Amatsia qu'il n'avait pas fait disparaître les hauts lieux, c'est là où on sacrifiait, où on offrait des parfums, de l'encens aux divinités étrangères dans le pays d'Israël, dans le pays de Juda, là où Dieu voulait être seul adoré. Alors Amatsia voulait être agréable au Seigneur, il fit ce qui est bien ou ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais il voulait aussi être agréable au peuple qui avait intégré le culte des divinités étrangères. Et cela, Dieu ne le supporte pas. On ne peut servir Dieu et Mammon, dit Jésus, c'est-à-dire Dieu et l'argent, car l'argent peut être un dieu comme... Bien d'autres choses peuvent être des divinités, des dieux. En fait, tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie est une divinité. Et Dieu veut être le seul adoré, le seul servi. Avoir un cœur partagé, c'est, pour reprendre peut-être une expression un peu triviale, être assis entre deux chaises. Le prophète Élie a trouvé une expression qui est bien parlante. En s'adressant à son peuple, il dit qu'il cloche des deux côtés. C'est-à-dire qu'il ne sait pas où il va s'arrêter. Hein, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Voilà, un cœur partagé. C'est-à-dire qu'il ne sait pas se décider complètement pour le Seigneur qui veut régner sur chacune de nos vies. Et cela veut dire aussi que c'est laisser tout un pan de notre vie à notre propre volonté. Souvent, nous sommes un peu comme cela. On veut bien du Seigneur, on l'adore, on le loue, on le sert, on l'aime, mais certaines décisions, on préfère les prendre tout seul, où il y a aussi certaines attitudes, certains comportements dont on ne demande pas au Seigneur s'il est d'accord ou pas. Le contraire d'un cœur partagé, c'est un cœur entier. Qui appartient entièrement au Seigneur. Et Jérémie, une parole qui est reprise par l'apôtre Paul, dit qu'il nous faut laisser le Seigneur sonder nos cœurs et nos reins, c'est-à-dire au plus profond de nous-mêmes, pour voir si notre cœur est partagé, s'il y a des pans de notre vie qui appartiennent encore à notre moi, à nous-mêmes ou à d'autres dieux, ou si toute notre vie appartient au Seigneur. Amatsia avait donc un cœur partagé, ce qui revenait à dire qu'il s'appuyait sur ses propres forces et non pas sur le Seigneur. Et quand on a le cœur partagé, cela se voit dans notre comportement, dans nos activités. Et la suite du récit va nous montrer que Amathia n'était pas prêt à se confier entièrement au Seigneur. Il voulait bien respecter certaines lois, c'est ce que nous dit le verset 4, mais dans l'ensemble, il faisait ce qui lui semblait bon, sans consulter le Seigneur. Et c'est particulièrement vrai dans son cas, dans le domaine militaire. Une fois qu'il aura affermi son trône, il va compter ses soldats, sa force militaire. À cette époque, mais aujourd'hui aussi, ça compte d'avoir une armée. Alors, on l'a fait parader sur les Champs-Élysées le 14 juillet, ou autrefois, je ne sais pas si c'est encore le cas, à Moscou, sur la Place Rouge. Et on montre ainsi sa force. Alors Amathia compte ses soldats. 300 000 hommes d'élite. Hein, c'est le verset 5 et le verset 6. Au-dessus de 20 ans, l'âge du service militaire, maniant la lance et le bouclier. Et il estime que ce n'est pas suffisant. Il a un petit état, hein, le petit état de Juda à côté de ses voisins qui sont quand même assez gigantesques. C'est pas grand-chose. Alors, il va acheter des mercenaires dans, on pourrait dire, le pays frère, le pays d'Israël. Hein, il ne va pas les chercher en Égypte ou ailleurs, mais dans le pays d'Israël, ils ont la même histoire commune, même s'ils sont divisés. Et il va acheter 100 000 vaillants héros, 100 000 mercenaires, pour, dit ma Bible, 100 talents d'argent. Alors, 100 talents d'argent, on ne sait pas trop comment traduire ça en monnaie d'aujourd'hui. C'est pas facile, hein, parce que c'est vrai que cela dépendait de l'économie du pays, cela dépendait de beaucoup d'autres facteurs dont on n'a pas forcément tous les éléments. La Bible du Semeur traduit, et j'aime bien cette traduction, 3,5 tonnes d'argent. Ah, 3,5 tonnes, ça représente quand même quelque chose. Hein, c'est un camion rempli d'argent. 3,5 tonnes d'argent. Ça doit être quand même une petite fortune. Voilà donc ce roi Amathia, avec ses 300 000 soldats, plus 100 000 mercenaires, forts de son armée, prêts à affronter peut-être un éventuel ennemi, ou même à livrer bataille. Mais il oublie deux choses. La première chose, c'est que son petit pays de Juda ne lui appartient pas, mais il appartient au Seigneur. Et le Seigneur n'a que faire des armées humaines. Très souvent, et c'était le cas avec son ancêtre, je crois qu'il devait s'appeler Josaphat, qui a été envahi par une armée étrangère. Et Dieu lui dit, mais tu n'auras même pas à combattre, c'est moi qui m'en charge. Hein? Dieu se considérait toujours comme le propriétaire, comme celui qui avait délivré son peuple et celui qui voulait aussi le secourir. Alors Dieu envoie un homme de Dieu. Ma Bible dit, au verset 7, « Un homme de Dieu vint lui dire, « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche pas avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand bien même tu serais ferme au combat, Dieu te fera trébucher devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire trébucher. » C'est Dieu qui décide. Quelle est notre attitude lorsque nous avons un problème, une difficulté, ou lorsque nous réfléchissons à notre avenir? Comptons-nous sur nos propres forces uniquement? Comptons-nous sur le Seigneur? C'est Dieu qui a le pouvoir d'aider ou de faire trébucher. Mais Amathia avait déjà versé les 3,5 tonnes d'argent à ses 100 000 hommes. On n'aime pas bien perdre de l'argent. Alors aujourd'hui, on a 7 jours pour se rétracter, je crois, hein, quand on fait une vente qui ensuite nous dit « Ah, j'aurais peut-être pas dû faire cet achat ». On peut aller le rendre, c'est la loi, hein, on a 7 jours pour le faire. Bon, je pense pas que ici c'était le cas, il avait déjà versé cet argent. On pourrait se dire « Mais ces mercenaires étaient peut-être contents d'avoir reçu l'argent sans combattre ». Mais non, parce qu'un mercenaire c'est fait pour combattre. Et un mercenaire sait bien qu'après une guerre ou dans une guerre, il y a toujours un butin à ramasser. Donc il y avait l'argent, il se vendait, et puis il y avait le butin, et puis sans doute aussi pour un mercenaire, l'attrait hein, d'aller combattre. Alors l'homme de Dieu lui dit, mais laisse tomber cet argent, et il lui dit cette parole assez surprenante au verset 9. Au verset 9, Amatia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Voilà une parole à méditer. L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Qu'est-ce que 3,5 tonnes d'argent pour le Seigneur? Souvent, quand nous sommes aussi déçus, peut-être par une mauvaise affaire ou peut-être, je ne sais pas, par une décision malheureuse, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Et Amatia tient compte de la parole de Dieu. Il renvoie les mercenaires qui sont furieux. Ils vont se venger en pillant sur le chemin du retour. Voilà donc un homme partagé. Parfois il agit bien, là il agit bien, mais parfois il agit de sa propre initiative, de sa propre volonté. Et au verset 11, Amatia affermit son pouvoir. Et quand on affermit son pouvoir, quand on devient un peu plus sûr de soi, quand on est bien établi dans la société, alors on se croit sans doute fort et puis suffisamment muni de toutes sortes de barrières pour pouvoir faire face à l'ennemi. Mais il n'a pas agi ensuite conformément à la parole de Dieu, puisqu'il est allé combattre le pays d'Israël. Et notre chroniste conclut au verset 27, « Après qu'Amatia se fut écarté de l'Éternel, on forma contre lui une conspiration à Jérusalem. » Après qu'il s'était écarté, dans une bataille qu'il a menée contre les Édomites, un peuple qui se situe au sud de la mer Morte, il avait remporté une victoire éclatante. Et cela lui est monté à la tête. Il s'est cru très fort, vous savez, un petit peu comme la grenouille qui voulait manger le bœuf. Hein. Et il est allé combattre contre Israël. Le roi d'Israël s'est moqué de lui avec une petite parabole un peu amusante. Il l'a comparé à un buisson, alors que lui, le roi d'Israël, se compare au cèdre du Liban. Hein, il dit, oh, mais le petit buisson veut faire la guerre au cèdre du Liban, et les animaux sont venus fouler le petit buisson avec leurs pieds. Il y va quand même, le roi Amatia, contre le roi d'Israël, et il est battu, il est fait prisonnier, sa ville est prise. Et c'est un comble par rapport à cette parole que l'homme de Dieu lui avait dite. Au verset 9, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Au verset, à partir du verset 14, un prophète, un homme de Dieu, vient lui dire de ne pas combattre contre Israël parce que après sa victoire sur les Édomites, il avait pris les dieux des Édomites, et il avait servi les dieux des Édomites. Et c'est une fin lamentable que connaît ce roi Amatsia. Alors j'aimerais en tirer essentiellement trois leçons pour nous ce matin. Dieu nous veut entièrement à lui, sans cœur partagé, sans réserve. Est-ce que nous avons l'habitude de confier nos projets au Seigneur dans la prière, de lui dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux ?» Nos décisions, même les petites décisions, est-ce que nous prenons cette habitude de dire « Seigneur, je veux que tu me diriges, je veux que ce soit toi qui me montre le chemin à suivre ?» Est-ce que c'est là une attitude que nous avons prise ou est-ce que trop souvent nous décidons par nous-mêmes, pensant que le Seigneur, oh, il est sans doute trop grand pour s'occuper de nos petites affaires. Un dictionnaire biblique ancien que j'ai consulté dit ceci au sujet du roi Amatsia. Parce que ce n'était pas une foi véritable, il se détourna de l'Éternel. Et la fin de ses jours a daté de cette victoire sur les Édomites, ne fut que péché et malheur. Quand on a le cœur partagé, trop souvent, si on ne se reprend pas à temps, on finit par abandonner le Seigneur. C'est ce qui s'est passé pour ce roi Amatsia. Deuxièmement, méfions-nous de nos réussites. Ils peuvent être source d'orgueil, nous faire croire que nous pouvons mener notre vie, nous-mêmes, que nous sommes assez intelligents pour le faire, sans tenir compte de Dieu. Y a-t-il des péchés, des désobéissances, des infidélités que nous n'avons pas confessées au Seigneur? Demandons au Seigneur dans la prière si notre cœur est partagé, s'il y a des choses qui ne sont pas à lui, qui ne lui appartiennent pas, qui ne sont pas selon sa volonté, selon son bon plaisir. Je suis sûr que Dieu nous indiquera ce qui lui déplaît dans notre vie. Et puis, troisièmement, j'aimerais revenir sur cette phrase que je trouve remarquable. L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Qu'est-ce que 3,5 tonnes d'argent aux yeux de Dieu? Il peut te donner bien plus. Mais je voulais sans doute dire par là aussi que les biens matériels sont secondaires par rapport à des biens plus importants, éternels. La communion avec Dieu, et pour ce roi Amatsia, c'était faire la volonté de Dieu pour que le pays soit en paix, pour que Dieu continue à régner en Juda, à Jérusalem, en Israël. Où sont nos vrais biens, nos vraies préoccupations? Que sert-il, dit Jésus, à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ou sa vie? Mais en disant son âme, on pense à la vie éternelle. Un missionnaire, je crois qu'il a perdu la vie. Un missionnaire chez les Incas, en Amérique centrale. Il s'appelait Jim Elliot. Il a dit cette parole que je trouve remarquable. Il n'est pas sot, celui qui abandonne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Nous ne pouvons pas garder nos biens matériels. Comme on le dit de façon populaire, on ne les emporte pas dans sa tombe. Mais notre vie éternelle, notre vie avec le Seigneur, elle est appelée justement à vivre soit éternellement avec le Seigneur, soit loin du Seigneur. Et l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 3, verset 20, nous dit « Mettons notre foi en Dieu, il peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tout ce que nous demandons à Dieu, au Seigneur. En fait, Amatsia était parti sur un mauvais départ. Un faux départ. Il était prêt à faire ce qui est droit, mais avec un cœur partagé. Et quand on a un cœur partagé, on ne fait pas toujours ce qui plaît au Seigneur. Mais c'est tellement plus commode de faire comme tout le monde, comme les gens qui nous entourent, comme ceux qui ne se réclament pas du Seigneur. Souvent, nous agissons un peu comme eux parce que ça nous coûte de faire la volonté de Dieu. Avec le psaume 139, versets 23 et 24, nous pouvons prier « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. » Alors posons-nous la question, suis-je partagé ? Mon cœur est-il entier au Seigneur ? Que le Seigneur parle à notre cœur, pardonne nos péchés, nos manquements, et nous conduise sur la voie de l'éternité. Amen.